I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Alors, je me suis dit que à l'occasion de la sortie du spectacle de Panayotis Pasco, presque, sur Netflix, vous alliez sans doute être très très nombreuses et nombreux à le regarder sur Netflix. Aussi, je me disais que ça pourrait être l'occasion de ressortir cet épisode qui date de 2019, où à l'époque, on avait vu avec Mimi... Donc c'était à l'époque du Boys Club, on avait vu le spectacle de Panayotis à l'époque où il jouait dans une toute petite salle au Point Virgule à Paris, qui est une petite salle de 100 personnes. Donc autant vous dire que là maintenant il joue dans des salles immenses, il va finir par jouer à l'Opéra en janvier, à l'Opéra Garnier en janvier, mais c'est déjà complet. Donc le mec entre temps a vraiment explosé et c'est très marrant parce que cet épisode dit plein de choses de Panayotis. Je vous invite également à aller écouter l'histoire de succès que j'ai fait avec lui. Je vous mettrai le lien, ça c'était un peu plus tard, je vous mettrai le lien directement dans les notes de cet épisode, et puis bah, je vous dis bon épisode quoi, salut.
Coucou c'est Mimi.
Coucou c'est Fab.
Et bienvenue dans ce
Boys Club.
En canon.
À chaque fois je change.
C'est beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'ai vu qu'il y en avait un des deux qui voulait arrêter ce jingle.
Généralement
c'est
moi.
C'est plus du côté de Fab, mais...
Fab est toujours chaud pour les jingles.
Je suis sûr qu'avant chaque podcast, il faut vraiment qu'on le fasse. T'es sûr, on peut pas prendre un vrai jingle si on a un petit budget. Non, faut qu'on le fasse.
Attends, okay, moi à la base, bon. Je voulais un vrai jingle et tout. Et c'est Fab qui m'a dit écoute, l'important c'est de lancer
c'est
ton podcast, c'est pas de perdre du temps.
Il casse bien son jeu parce que j'ai vu dans ses yeux, il a fait genre il avait un peu honte de le faire.
Non, mais Fab, c'est Jean-Michel. Okay, il faut que ça, on sort le truc. Donc okay, si on n'a pas de jingle, on le fait à la bouche, on s'en bat les couilles.
Parfois je hurle, parfois je fais de la ASMR. Enfin, tu vois, c'est.
Ouais, là t'as pas trop hurlé, c'était bien. Les gens sont contents. Ça fait longtemps que t'étais pas dans le podcast en plus.
C'est vrai.
Ah, The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux avec Fab, ou parfois toute seule, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est en très bonne compagnie, puisqu'on est avec Panayotis Pasco.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Comment ça
bonjour.
Va ça va.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quatre personnes qui ne sauraient pas qui tu es?
Écoute,
le mec est Michel Drucker.
Non, tellement pas, bah oui, au contraire. Non, je m'appelle Panayotis, je fais des blagues. Je crois que ça me résume assez bien, en vrai. Non, attends.
Et si, ben super.
Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Je fais des blagues de manière professionnelle. C'est-à-dire que j'ai une fiche de paye à la fin du mois avec mes blagues, quoi. Je suis en mode, waouh, c'est fou comme métier, mais c'est voilà, c'est moi.
Ceci dit, si Mimi dit que les gens te connaissent très bien sur le Boys Club, c'est parce qu'il y a une vraie raison.
Je pense que tu es la personne qu'on m'a le plus réclamé dans le Boys Club depuis que le Boys Club existe.
Et c'est-à-dire depuis quand?
Depuis 8 jours. Quand même 2 ans.
Un mail de ta mère.
Jamais.
Bien 50 épisodes.
Elle crée des faux comptes à ma mère souvent quand elle veut qu'un truc se passe.
Okay. Elle a beaucoup
c'est
de faux comptes.
C'est que les gilets jaunes, c'est que ma mère. Hein. Je te jure, c'est ma mère avec des moustaches, des trucs, c'est que ma mère. C'est quand elle veut vraiment qu'un truc se passe, elle peut mettre tout.
Donald Trump, c'est elle aussi ou pas?
Ouais, bien sûr.
Les fake news, c'est bien
sûr. Elle est forte en perruque quand même.
Non, machin, mais trop bien alors. Et bah, bien, enchanté, j'allais dire enchanté, comme si, bah, bienvenue, merci d'être dans le Boys Club aujourd'hui. Le mec, il s'invite dans son truc. Non, mais j'allais dire merci beaucoup de m'inviter.
Du coup, tu as été très réclamé et en allant voir ton spectacle presque avec Fabrice, j'ai compris pourquoi, car c'est un spectacle qui est sans pour... Je pense que j'aurais juste pu faire une captation audio de ton spectacle et en faire un épisode du Boys Club et ce serait passé parce c'est que t'abordes...
Et je t'aurais envoyé mon avocat pour des questions de droit,
car
mais sinon tout
je n'ai
bien.
Pas les droits, voilà. Mais voilà. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il va venir et raconter un peu les mêmes trucs, mais sans qu'on ait un avocat au cul. Voilà.
Allez, parfait.
Du coup, la première question est à la fois très vaste et très surprenante pour plein d'invités. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Panayotis, être un homme?
Bah, je crois que on en fait tout un plat, mais je crois que ça veut pas dire grand-chose. Je sais pas, hein. Mais attends, je pense qu'à une époque, peut-être, ça voulait dire quelque chose, quand il y avait une vraie distinction entre être un homme et être une femme. Quand un homme, c'était celui qui devait aller travailler, qu'il y avait un truc qui était instauré, etc. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus le cas, je pense que ça veut pas rien dire être un homme ou être une femme. Je pense qu'on a les mêmes enjeux, on a la même pression un peu. Peut-être que... Est-ce que tu sens la réponse qui va durer 8 ans? Non, mais je pense que être un homme, ça veut rien dire à part être quelqu'un, quoi. Je sais pas. Il y a pas de différence entre être un homme ou être une femme pour moi. J'ai l'impression à cette époque, en tout cas, on a cette chance-là de, il y a les mêmes enjeux, les mêmes responsabilités. Alors peut-être qu'il y a encore un petit peu ce truc-là qui m'énerve un petit peu. Moi, je le vois, j'ai une sœur, mais il y a cette pression un petit peu chez une femme de très vite faut que tu fondes une famille, et chez un homme, c'est très vite faut que tu sois financièrement stable. et c'est pas du tout les mêmes enjeux, et j'ai l'impression qu'il y a toujours cette petite pression qui pèse sur les épaules et des hommes et des femmes, mais sinon j'ai l'impression que ça s'est un petit peu plus régulé, que être un homme ou être une femme, c'est à peu près la même réponse qu'on peut donner.
Elle a quel âge ta sœur?
Ma sœur, elle a 23 ans.
Et toi, t'as...
J'ai 21.
21, ok.
Est-ce que tu penses que vous avez été éduqués un peu différemment? Parce que toi, t'es un garçon et elle, c'est une fille.
Je pense que oui, je pense qu'il y a eu un léger... Je pense que mon père, il avait eu que des garçons. Enfin, il a eu une première fille avant, mais qui voyait un peu moins parce qu'elle a, elle a, ils ont déménagé, son ancienne femme et elle. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que à la fois quand elle a grandi, il a été beaucoup plus proche d'elle. C'est-à-dire que mon père, nous, on est très, j'en parle dans le spectacle, on est très loin de lui. On se sent vraiment à des kilomètres. Tu vois Ad Astra, le film là qui est sorti, c'est vraiment la bonne métaphore. On a l'impression qu'il est à l'autre bout de la galaxie. Et par contre, il est très proche avec ma sœur en ce moment, mais quand on était un peu plus jeune, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qu'il ne comprenait pas. Ma sœur, elle est très émotive. Nous, on l'a beaucoup été aussi, mais on n'avait pas le droit de montrer nos sentiments parce qu'on est des hommes. Donc c'est peut-être ça le changement qui était là. Mais ma sœur, quand elle était plus jeune, elle pleurait beaucoup. Des trucs que j'avais envie de faire aussi, mais que je pouvais pas forcément.
T'en parles d'ailleurs beaucoup dans ton spectacle.
Ouais. Et j'ai l'impression que quand on était plus jeune, mon père, il y avait un truc où il regardait ma sœur un peu comme, tu sais, une extraterrestre. Il l'aimait et tout, mais il savait vraiment pas s'y prendre. Et ça donnait des scènes un peu cocasses où genre, je me souviens à Noël, ma sœur, elle voulait un iPhone, mais c'était un des premiers trucs. Elle avait économisé, tu sais, nous, on avait le truc chez les Blancs, ça se fait, je crois, où tu peux dire, je veux rien, je veux pas de cadeau à ce Noël-ci, à cet anniversaire, mais par contre, au Noël d'après, je veux un gros cadeau, tu vois, genre, tu fais des économies, t'es un crédit de Noël. Et ma sœur, elle avait dit, tu sais, elle avait, je sais pas, 15 ans, 16 ans, elle avait dit, tout le monde a des iPhones depuis, je sais pas, truc, et j'aimerais avoir un iPhone et tout. Et mon daron, il avait dit, ok, pas de souci, puis à Noël, il lui offre un cadeau. Et c'est genre une boîte d'iPhone. Elle est en mode, oh, elle ouvre l'iPhone et dedans, il y a de l'ail. Et il dit, c'est un iPhone. Et elle pleure, mais tellement fort et tout.
Putain, la blague de
Dar. Et elle pleure. Et nous, on était en mode, bon, ok, il y a sûrement un vrai téléphone après. Et non. Il a dit, et après, je sais plus ce qu'il a offert, un bouquin, il avait joué à Noël. Elle était en mode, non, non. Et tu sais, tu te dis, il y a un truc où il sait pas faire, quoi. Mais donc,
mais c'est hyper cruel de faire ça.
Ouais, moi, nous, on a beaucoup rigolé, mais
c'est marrant, mais c'est cruel.
Mais il y a, ouais, je pense qu'il y a juste un truc où il a pas su faire pendant un moment, et maintenant je crois qu'il comprend beaucoup plus ma sœur que nous. Mais j'ai trouvé ça assez beau comment mon père il nous aime tellement fort, mais tu sens qu'il y a une résistance, il y a vraiment une sorte de, il y a un plomb qui a sauté quelque part et il sait pas où appuyer pour allumer le sèche-linge. Il y a vraiment un truc de, et j'ai vraiment l'impression que il fait tous les efforts possibles, et c'est ça que j'ai aimé. Mais par contre, ouais, je pense qu'il y a une légère différence dans l'éducation entre ma sœur et nous.
Parce que du coup, ton père, il comprend pas ta sœur parce qu'elle est très émotive et que lui, apparemment, les émotions, c'est pas sa passion.
Ouais.
Mais vous, en fait, quand tu dis nous, c'est ton frère et toi?
On est quatre frères.
Ok.
En tout, quatre, on est frères, six dans ma famille, il y a deux filles, ma demi-sœur, ma sœur, et on est quatre frères.
Et c'est quoi les échelles d'âge?
Je suis le dernier. Et ma sœur, c'est l'avant-dernière.
Ok. Donc quand tu dis nous, tu parles de tes frères et toi.
Ouais.
Vous avez aussi des émotions, car vous êtes des personnes humaines.
Bien sûr.
Donc en fait, ta sœur, elle les exprime, et ton père,
j'ai dit bien sûr
réagir.
Sur le ton d'un robot qui essaierait de faire croire
bien sûr, j'adore m'hydrater avec du H2O. Donc ta sœur, elle exprime ses émotions et ton père ne sait pas quoi en foutre. Mm-hmm. Mais vous exprimez pas vos émotions.
On a mis du temps. Bah là, je pense que ma vraie chance, c'était mon frère, un de mes frères, mon frère Paul, qui a vraiment essuyé les plâtres. J'en discutais, je sais plus avec qui dernièrement, mais je pense que c'est vraiment l'artiste de la famille. Tu sais, il a ce truc où très très tôt il a commencé à beaucoup fugué, d'ailleurs. Il y avait beaucoup ce truc là de, il voulait partir de la famille, et puis il a fait des petits, tu sais, des séjours, genre il partait en caisse, puis il nous prévenait pas trop, il revenait une semaine après, des trucs qui énervaient de ouf mes parents. Je me souviens de mon père qui cloue des trucs sur sa chambre en mode, tu restes ici, et puis mon frère qui sort par le balcon, des trucs dans ce genre où t'es en mode, bon, ok. Mais il y a, tu sais, il y a ce truc là un peu de genre, il voulait un peu découvrir quelque chose. Ça fait vraiment un peu, tu sais, la caverne, quoi, le mec qui voulait sortir et tout. Et puis je pense que ça a vraiment été l'artiste de la famille, dans le sens où il a fait de la musique, il a appris à faire des instruments, à chanter, il a appris à réaliser des clips, il a fait du théâtre. Là aujourd'hui, il est prof de théâtre et il monte des pièces de théâtre, qu'il fait d'ailleurs des théâtres nationaux, sur des scènes nationales et tout. Mais, et c'est vraiment, il est comédien, il est auteur, il est réalisateur, il fait plein de trucs et tout. Et il a 18 000 cordes à son arc, et je pense que c'est un mec qui sait vraiment écouter ses sentiments. Et ça, c'est un truc qui est Je pense que c'est pas le pire, c'est pas d'avoir des sentiments. Je pense que le pire, c'est avoir des sentiments, mais ne pas savoir les écouter. C'est-à-dire, ils sont là, ils te crient à la gueule et tu sais pas quoi en faire et tu les ignores. Comme les mamans qui sont au carrefour et qui nient leur gamin qui est en train de crier. Et t'es en mode, mais tu peux pas nier ça. Il est en mode, je veux des bonbons! Et elle fait genre, tout va bien, j'adore cette journée. Et c'est vraiment ça avec les sentiments, tu vois. Et moi, mon frère, j'ai l'impression que c'est vraiment la maman cool qui dit, écoute, Timothée, tu ne peux pas avoir de bonbons aujourd'hui. Et je pense qu'il nous a appris un petit peu ce truc-là et ça a été dur pour lui parce qu'il a vraiment essuyé les plâtres. Je pense que ça a été très dur avec mon père pendant certains moments. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé. Les moments où je vivais des trucs forts, j'allais toujours voir mon frère et on en parlait et c'était toujours avec les bras ouverts. Et je pense que sans mon frère, je sais pas aujourd'hui déjà de une si je serais artiste et de deux si je serais aussi à l'aise de parler de sentiments, de vulnérabilité, etc. Donc ça, c'est une vraie chance. Et je me souviens plus du tout quelle était ta question, mais j'ai adoré mon impro.
C'était très bien. Est-ce que t'as déjà dit à ton frère que t'étais reconnaissant pour ça? Est-ce que t'as déjà eu cette
discussion? Je fais comme beaucoup de là, je le dis en interview, quoi, en me disant peut-être un jour il tombera dessus.
Bisous Paul, si tu écoutes ça, peut-être dans 10 ans.
Beaucoup d'invités du Boys Club ont de manière générale des messages pour leur père.
C'est vraiment comme le disque, tu sais, le vinyle gravé en or qu'on a envoyé dans l'espace pour les extraterrestres, c'est un peu ça, genre. Des fois, je me fais pour le film dans lequel j'ai joué, on s'est fait interview genre pour par France Bleu Côte d'Azur, je sais pas quoi, à 11h du mat, et je lâchais des vrais bouées pour des potes du collège. Je me dis peut-être ils vont écouter, mais pourquoi ils écouteraient des trucs de Franche-Comté? Mais je lâchais des vrais bouées comme ça, je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est beaucoup plus facile de parler quand t'es pas face à la personne.
Pourquoi?
Bah je sais pas faire. Tu sais, moi j'ai dit une fois je t'aime à ma mère, et c'était par texto à genre 2h du matin parce que j'étais bourré. C'est vraiment pas le truc à faire. T'es une daronne qui a jamais eu un seul message d'amour de son fils et elle ouvre son iPhone un matin genre 8h et elle reçoit « Maman, t'es là, faut que je te dise un truc, je t'aime, écoute !» Et il s'est tué pendant la nuit, c'est sûr et certain en fait. Donc elle m'appelle 18 fois « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais ouais, j'ai fait la même à mon père là il y a pas longtemps. Non mais après le spectacle, je pense que c'est un peu une déclaration d'amour aux parents. Ils sont venus voir le spectacle, je pense que c'est un peu passé, j'ai l'impression.
Comment il a réagi ton père quand tu lui as envoyé un texto pour lui dire que tu l'aimais?
C'était trop mignon. J'ai jamais mangé tête à tête avec mon père. Là, on se fait la bise avec mon père, mais avant, on se serrait la main, il y avait un truc très employé à employeur, quoi. Mais non, je lui ai envoyé un soir donc un texto. En fait, il y avait un pote qui m'avait parlé à quel point son père lui avait manqué, mon coloc de 40 ans dont je parle dans le spectacle.
Et on va en causer aussi.
Et il me racontait un peu tout ce truc-là d'à quel point ne pas avoir de père, ça a été compliqué pour lui. Et je me souviens que moi, je me suis dit, putain, moi, j'ai eu vraiment un père qui nous a aimés, même si ça transparaissait pas beaucoup. Il nous a aimés tellement fort, il nous a vraiment aidés, et on a eu une belle éducation et tout. Et je suis reconnaissant, et du coup, je lui ai fait un long pavé. Ce qui est vraiment très horrible, pareil, tu reçois un long pavé un matin. Et donc, je me souviens, je me réveille, parce qu'on s'est couché, on avait fumé, mais on s'est couché genre archi tard. Et du coup, on s'est réveillé à 13h, mais sauf que mon père, il se lève à 8h, donc il ouvre et il voit un pavé. Et je me souviens, il a essayé de m'appeler, donc moi, je me réveille, je retire mon mode avion à 13h, et je vois genre 12 appels en absence du daron. Et je vois il m'a écrit un premier texto. Qu'est-ce que tu racontes? Point d'interrogation. Le deuxième à 9h30, donc une heure après. Bon, écoute, très bien, parlons-en. À genre 10h30, si tu veux, on peut manger ensemble. Parce que moi, dans le truc, j'aimerais bien
pourquoi
qu'on mange ensemble.
Qu'il t'engueule.
Et genre, et à 13h, il m'a dit, si tu veux, je peux me libérer ce midi pour qu'on mange. Genre, tu sens vraiment, il y a eu l'évolution de, et c'était trop mignon. Et on a mangé ensemble 2 semaines après, c'était assez cool, on s'est pas beaucoup parlé. Mais je me souviens, c'était arrivé avec une liste de questions. J'avais écrit une liste de questions sur un papier pour lui poser toutes les questions. Est-ce que t'es content de ça? Est-ce que quand t'as fait ça dans mon éducation, c'était pensé? Est-ce que là, est-ce que truc? Et je lui ai posé toutes les questions comme un interrogatoire. Et il a tout répondu, c'était cool. Après, je lui dis, si toi t'as des questions pour moi, parce que tu sais rien de ma vie, tu sais rien de mon travail, de mes amours, de rien, si t'as des questions. Il m'a dit, moi j'ai pas de questions à te poser. J'ai dit, ok, bah très bien, bonne soirée. Et donc je sais que ça arrivera un de ces quatre, mais pas tout de suite.
J'adore quand Timmy tombe.
J'adore ta voix de daron.
Et le pire, c'est que c'est pas vraiment la voix de mon père, mais je trouve que c'est la bonne voix c'est la voix interne de mon père.
C'est ça. Il y a un truc un peu animal, un peu.
Ouais, il y a un truc très très. Il y a juste l'énergie qu'il faut, quoi. Très chirurgien qui demande un scalpel. C'est très scalpel.
Scalpel.
C'est très.
Est-ce que t'as appris des trucs pendant cet interrogatoire à ton daron que
j'ai appris plein de choses, ouais. Plein de choses. Vraiment, j'ai appris. Bah, je pense plein de. En fait, c'est marrant, mais c'est comme j'avais le making of de notre éducation, quoi. C'était assez marrant. J'avais vraiment l'impression que je comprenais plein de choses, que d'un autre côté, moi, je lui ai demandé, mais comment c'était avec ton père? Moi, j'ai jamais rencontré son père. Mon père, il parle pas trop à sa mère, il l'appelle par son prénom, il y a un truc très froid par rapport lui aussi à sa famille et tout, donc puis d'un seul coup, c'était intéressant. Moi, je lui ai posé plein de questions sur son éducation à lui, c'était super intéressant, j'ai compris plein de trucs. C'est mon père, il a dû partir de chez lui genre à 13-14 ans, il a vécu un peu moment un peu dans la rue et tout, il y a vraiment un truc où tu sens qu'il je comprenais qu'il lui manquait une petite case. Et donc c'est une question juste de compréhension, de se mettre à la place de quelqu'un, donc j'ai compris plein de trucs, tu vois. C'était très utile.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait à partir de la discussion avec ton coloc?
Ouais.
De te dire OK, je vais lui poser plein de questions.
Parce que... À mon père?
Ouais.
Bah je pense que c'était le c'était bah en gros mon coloc il me disait que son père lui avait manqué et que et je lui dis mais si là ton père il arrive dans la pièce qu'est-ce qui se passe et je pensais qu'il allait me dire bah je lui poserais plein de questions pourquoi t'es parti et tout il m'a dit je pense que on se tape donc je me suis dit ok on n'a pas le même rapport avec ouais. avec tout ça et je me rends compte que et là je me suis dit putain c'est une chance déjà de une d'avoir un père c'est une vraie chance que plein de gens n'ont pas et après je me suis surtout dit bah moi en fait j'ai la chance d'avoir mon père qui est là et je peux lui poser des questions sur plein de choses que j'ai pas compris ou autre parce que moi un des trucs que je reproche le plus à mon père c'est des non-dits. C'est dès qu'il a quelque chose qui le traverse, il le cache et il nous en parle pas et tout. Et du coup, je me suis dit bah peut-être que ce serait intéressant de lui poser des questions sur ces non-dits là parce qu'au final moi de lui dire faut que t'arrêtes d'avoir des non-dits et de pas en parler parce que je suis complice du truc aussi. Et à un moment, je me suis pose les choses, vois-le et discute d'adulte à adulte quoi, d'employeur à employé.
J'aimerais bien creuser un peu l'histoire de ton coloc.
Allons-y,
comment tu te retrouves à 21 piges à vivre avec un mec de 40 ans?
Ah, la vie.
C'est qui ce mec, d'où il sort? Parce
un
que
pote,
c'est aussi ton meilleur
moi,
ami, tu vois.
Ouais, ouais. C'est un pote à moi. C'est un pote à moi qui est rentré en pleine crise de la quarantaine et qui avec qui on s'est mis en coloc un petit peu pendant un moment parce que c'était très tumultueux dans sa vie. Puis à un moment, on s'est posé officiellement en coloc et on est resté. Quasi un an en coloc ensemble, c'était vraiment cool. Et puis c'est là qu'on est vraiment devenus très très potes et qu'on passait des soirées entières à discuter. Et puis c'est aussi grâce à lui, je pense, que j'ai écrit le spectacle parce que, tu sais, moi je lui parlais beaucoup parce que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment, il a une lecture de la vie qui est phénoménale. C'est un mec qui a bouffé tous les films, tous les bouquins du monde. Il connaît toutes les théories psychologiques, il lit tout, il connaît tout. Et du coup, dès que j'avais des questions ou moi j'avais pas les réponses, j'allais le voir un peu comme le grand sage, je toquais dans sa chambre et tout et on se posait et puis on discutait de je sais pas des fois on a fait des 21h 6h du mat, tu vois. Et on discutait de tout et en fait, je me suis rendu compte que les questions que je me posais, lui c'était des questions qui commençaient à remettre en jeu à 40 ans. Et je me suis dit je pense et c'est là où je me suis rendu compte aussi mais mon père en fait se pose les mêmes questions là à 60 piges. Et du coup, je me suis dit en fait, je crois que c'est des questions qui te traversent tout au long de ta vie mais juste t'as des grilles de lecture différentes et c'est là où je me suis dit ce serait intéressant de faire un spectacle où je raconte ces questionnements-là à travers un gamin de 20 ans, un coloc de 40 et un père de 60 qui sait pas faire. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça m'a aidé à faire le spectacle. Et voilà, mais c'était trop bien, moi j'ai adoré cette coloc.
C'est quoi la question qui te taraude le plus?
Dans la vie?
Dans les grandes questions.
Ah, dans les grandes questions.
Pose à tous les âges de la vie. Pas juste qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois, ce qui est une question.
Qui est une question compliquée. En ce moment, j'essaie de savoir. J'aimerais créer un compte au Luxembourg. Non, je rigole. Non.
Si vous avez des
impôts,
banquiers d'affaires dans vos contacts.
Non, en gros, je crois que la question c'est. En ce moment, je me dis, putain, ça va paraître si dépressif, mais. En ce moment, je me demande si c'est pas une illusion. Le bonheur pérenne. La dernière fois, je me disais, mais je crois qu'il y a que l'enfance qui compte dans la vie. C'est très bizarre, hein, mais je me disais, j'ai l'impression que les vraies années qui comptent, c'est l'enfance. Parce qu'il y a un truc où tu te prends la vie en pleine gueule. Et la dernière fois, je me disais, est-ce que on n'est pas juste des enfants en fin de carrière, tu vois? Et je me disais, je suis pas sûr que ça existe encore. Tu sais, quand t'es gamin, moi, je me souviens de périodes, genre de mes 9 ans, mes 11 ans, où je suis heureux, quoi. Et je crois que maintenant, c'est des pics de bonheur, tu sais, qui viennent, genre pendant 2 heures, t'es content. Puis après, d'un seul coup, tu penses à un truc. Tu vois, ce moment où t'es en soirée, tu t'amuses, et puis d'un seul coup, tu fixes le vide, pardon, et tu dis, je veux rentrer chez moi, en fait. Et je crois que je me disais, la dernière fois, il y a pas longtemps, est-ce que c'est un truc qui va revenir, ou est-ce que ça, c'est définitivement parti, et on essaie juste de sauver les meubles en étant adulte?
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else.
Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Je sais pas. Bonjour la dépression. Enchanté, bonjour dans ce podcast dépression.
Je pense pas que c'est dépression.
Non, pas du tout.
Je pense que c'est quelque chose en plus que tout le monde traverse en grandissant, de se dire est-ce que j'ai pas trop de trucs en tête pour être un jour heureux et épanoui en continu au lieu de juste avoir des pics.
Ouais, tu vois, mais il y a pas longtemps, je me disais est-ce que c'est pas l'enfance qui compte et le reste on s'en fout. Il y avait, je sais pas, je me disais est-ce que, parce que il y a un truc, moi Fab peut en témoigner, mais depuis mes 11 ans, j'essaie de jouer l'adulte et je me demande si ça pas me retomber sur la gueule dans pas longtemps, tu vois. Je me demande si j'ai pas profité de mes années bonheur. Et là, on voit, là, j'ai Patrick Sébastien en tête. Les années bonheur! Mais je me demande s'il y a pas un truc où j'ai sauté une étape qui est au final l'étape la plus importante de la vie. Qui est au final le truc où, peu importe, à 60 ans, tu repenses à ces moments-là. Je crois vraiment que, d'ailleurs, tout ce que tu es en tant qu'adulte, c'est des traumatismes d'enfance ou des trucs que t'as pas résolus ou pas connus en tant qu'enfant. C'est vraiment, je crois que t'es vraiment une éponge, enfant. Et adulte, c'est le moment où t'es sort cette éponge et après, ça te donne un contenant. Mais je crois vraiment que j'ai pas, et assez capté de choses quand j'étais petit. Okay. Donc je me demande si ça va pas me retomber sur la gueule. Je sais pas. On verra.
Pour redonner un peu de contexte, donc juste avant le spectacle, j'ai retrouvé nos SMS qu'on s'est échangé en 2012.
Bonjour la prison, Fabrice Florent.
14 ans.
J'avais quel âge ?
14 ans.
14 ans, magnifique.
Oui, et t'écrivais « Bonjour, c'est Panayotis, l'intervieweur de 14 ans.
» Ouais, j'ai trouvé une carte de visite, j'ai montré à mon attaché de presse. Hier, une carte de visite où dessus il y a écrit 13 ans. Le seul mec qui met son âge sur. Et derrière, t'as écrit imprimé gratuitement sur Vistaprint. Et.
C'est con parce qu'en plus elle est périmée au bout d'un an parce que t'as pas 13 ans. Genre 13 ans ça passe.
Ouais,
comme...
mais j'en refaisais, c'était gratuit. Hein. La planète, on n'y pensait pas à l'époque.
C'était il y a longtemps.
Ouais, c'était en 87. Non, mais ouais.
Et c'est vrai que t'avais cette démarche.
Et je te faisais chier, hein, tu te souviens, quand je te harcelais pour travailler ici.
Pour travailler,
je peux travailler chez Mademoiselle.
Bah oui.
C'est plus beaucoup des meufs. Et je disais, mais c'est pas grave, allez.
Puis juste avec 14 ans. Ouais.
T'aurais dû le prendre, regarde comme il est fort maintenant. Je suis là.
T'as la haine avec toi, bah tu voilà. Vois.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il était très fort.
Tellement pas, j'avais une tête à claque, j'allais voir les gens. Mais surtout, je
mais
pense
en fait,
que.
T'avais réussi à avoir des. Pour moi, t'avais réussi. T'étais fort, parce que dans le sens où t'avais réussi à faire en sorte que je te mette en contact avec Kian.
Ah ouais, j'avais harcelé Kian grâce à toi.
Et en fait, Kian,
j'avais tellement harcelé pour ça.
Ouais, mais en fait,
ça a marché.
Mais ça avait fini par marcher en fait.
Je pense que je suis le genre de gars quand les gens recevaient un texto, ils voyaient que c'est moi, ils faisaient. Oh. Tu vois ce texto de oh là là.
Mais en fait,
encore lui.
Bon, je vais mettre 2-3 heures à lui répondre pour lui montrer que bon, il se calme. Je sais que tout le monde faisait ça, quoi, parce que je voyais des vues et réponse le lendemain, j'étais oh, c'est pas gentil.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, tu deviens un petit forceur qui décide de qu'il a trouvé son métier et qui va se lancer? T'as 11 piges, quoi. T'es au collège, normalement.
14,
tu...
Voilà, t'avais 14 ans à l'époque, mais...
Je sais pas, tu joues à Pokémon, non?
Ouais, en fait, non, je pense que... Bah, je raconte un peu dans le spectacle ce moment où cette légère transition où j'ai voulu devenir un adulte très tôt, quoi. Ce moment où je me suis dit, en fait, on n'est pas là pour niaiser. Il y a vraiment ce truc-là. À un moment, je me suis dit, mais tu perds du temps. Et ça, c'est bon. Ma mère m'a appris que j'allais mourir très tôt. J'en parle dans le spectacle. Pas, on dirait que j'ai une maladie, mais pas du tout. Elle m'a appris qu'on mourrait. Mais normalement, un gamin, il est censé vivre un peu en oubliant ça. Et donc, c'est-à-dire que elle m'a appris que le Père Noël n'existait pas, genre un an après avoir appris que la mort existait. Donc, il y a un truc quand même de priorité qui était pas bon, quoi.
Et t'avais quoi, t'avais 7 piges ou un truc comme ça?
8 ans, ouais. Mais, et du coup, je sais que ça a fait trotter un truc dans ma tête de, mais en fait, je suis en train de perdre du temps. Tu sais, je voyais un peu ce truc-là de il faut faire des choses dans sa vie, il faut accomplir. Il y avait un peu cette idée-là de faut faire sa pyramide avant de mourir, quoi. Et donc très tôt, je sais pas, je voulais faire plein de trucs. Et je voulais faire de l'humour, mais je pense que par insécurité, j'assumais pas ce truc-là. Et du coup, je me disais, je veux traîner avec des humoristes, poser des questions à des humoristes, et je veux comprendre un peu. Je pense que j'ai ce côté un petit peu petit stagiaire qui a besoin d'aller demander avant de faire un truc, tu vois. Et du coup, j'allais voir tous les humoristes en disant comment on fait des blagues. Et donc voilà, comme là en ce moment j'ai envie de faire de la réalisation et je traîne avec beaucoup de réalisateurs et je leur pose toutes les questions possibles et quand j'ai fait mon court-métrage, bah j'allais à toutes les sessions de montage alors que la monteuse elle me disait mais tu peux ne pas être là et me donner des directions et après c'est non je veux tout comprendre et tout et puis le mixeur aussi qui me disait mais tu sais t'es là tous les jours de mix, tu comprends rien et j'ai dit je veux voir, j'ai besoin de voir. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi un petit peu stagiaire donc voilà, je pense que sans ça j'aurais pas été humoriste et d'ailleurs peut-être que sans ça je me serais dirigé vers des études de journaliste alors que c'est pas ce que je voulais faire. Donc peut-être que je me suis retrouvé comme beaucoup de jeunes à qui on demande très tôt de faire des choix à 22 ans en amphi pour apprendre à être ton journaliste en me disant mais en fait je crois que j'ai pas envie de faire ça. Sauf que merde, je suis embriqué là-dedans puis j'ai dit à toute ma famille que je faisais ça puis c'est compliqué d'en sortir. Donc je pense que c'est aussi une chance que j'ai eu de tester très tôt et de pouvoir voir que c'est pas ce que j'avais envie de faire.
Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, en vrai, tu posais des questions, mais t'avais plutôt envie d'être derrière le micro à répondre comme ce que t'es en train de faire.
Ouais, bah, tu vois, il y avait ce truc-là un petit peu aussi de, je me souviens, j'étais très interventionniste dans les questions. Et il y avait plein de gens qui disaient, mais mec, t'es face à Gad Elmaleh, arrête de parler avec lui. Laisse-le parler, on veut écouter Gad Elmaleh, on s'en fout de toi. Et moi, dans ma tête, dès qu'il parlait, j'étais en mode, j'ai trop un délire avec Gad Elmaleh. Alors que non, tu vois, j'étais en mode, mec, t'es l'intervieweur, tu poses la question et tu fermes ta gueule. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de me voiler la face, j'ai envie de faire des blagues.
Ah, c'est cool.
Donc, voilà. Et j'ai arrêté les interviews. Bah, d'ailleurs, Gad Elmaleh, c'était un peu mon boss de fin. Et après, j'ai plus fait d'interviews. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était le moment où mes interviews, elles commençaient un peu elles fonctionnaient pas, mais genre, elles faisaient des 150 000 vues et tout. Donc, je recevais des mails de, si vous voulez interviewer notre artiste. Et j'étais en mode, non, je commençais à refuser. J'étais en mode, arrêtez, c'est bon. Je suis retiré du business. Un peu genre Walter White à la fin de Breaking Bad. Genre, arrêtez, j'ai terminé avec ça. Je me suis mis 80 millions en cash de côté. Et donc, c'était assez
j'ai
marrant.
16 ans désormais.
Et pour le coup, on m'a proposé une interview de, et je me souviens à l'époque, c'est un des plus gros regrets. On m'a proposé d'interviewer Major Lazer et Diplo. Ah. Et j'avais dit non, je ne les connais pas, ça ne m'intéresse pas. Et genre après j'ai vu le truc qui m'ont dit, j'étais en mode, ok, très bien. J'avais
bon
interviewé ça aussi, j'avais interviewé Toto, le groupe Toto.
Oh.
Et j'ai interviewé
Toto de Africa de Toto.
Bien sûr.
Incroyable.
Et j'ai interviewé Deep Purple. Ce sont des choses qui ne sont jamais sorties, mais j'ai 30 minutes d'interview avec Deep Purple. Allez savoir pourquoi. Mais voilà.
C'est pas vraiment ta génération.
Ah, moi je suis là, le rock, moi c'est ma passion. Le rock, on dirait une vraie phrase humoristique, hein, mais c'est une vraie phrase pour un degré.
C'est ton daron qui t'a...
Tellement pas. Mes parents écoutent pas de musique. Non, c'est vraiment, j'adorais. Je voulais être un vieux monsieur, hein, quand j'étais petit. Donc j'écoutais, j'achetais des vinyles en brocante et tout. J'écoutais les Doors et tout. Je te jure, je mettais un vinyle dans ma chambre et je regardais mon plafond en mode putain.
Ça, c'est de la musique.
J'en ai marre de grandir dans le Bronx. Il y a vraiment un truc. Je me prenais pour je sais pas qui et tout.
Mais ça devenait d'où?
Hein?
Des films?
Non, j'avais un oncle qui écoutait un peu de musique et tout et qui m'avait filé un premier vinyle. Et puis j'avais demandé une platine pour pareil, j'avais fait une économie de Noël et tout, j'avais demandé une platine vinyle et j'écoutais un peu de musique et puis j'avais découvert et puis après j'ai acheté plein de vinyles en brocante d'occasion. Mais nous divagons.
Avec Fab, en sortant de ton spectacle, on s'est dit putain, il a tellement tout mis dedans. Genre comment il va faire deuxième spectacle alors qu'on a l'impression que t'as déjà raconté toute ta vie dans ce spectacle-là parce que t'abordes énormément de sujets et c'est hyper bien mais c'est très complet. Alors je me doute qu'il y a des aspects de ta vie qui restent privés mais on s'est vraiment dit putain il est allé si vite, si fort dans le premier.
Mais déjà ça, comment il va ça me fait plaisir, merci beaucoup.
Une suite.
Alors en fait pour compléter le truc c'est que moi j'avais pensé à... Et c'est Louis C.K. qui raconte ça dans son hommage à...
Je vais moucher.
Tu sais, il y a George Carlin.
D'accord.
Ouais, ouais. Il a tout un truc où il raconte qu'en fait, c'est George Carlin qui l'a incité à venir faire un nouveau spectacle tous les ans, à le faire, alors, l'écrire, le tourner, le faire un special et faire autre chose, quoi,
et
tu vois.
Thèse.
Et en fait, il racontait qu'au départ, il était un peu effrayé par comment je vais faire pour trouver des nouvelles blagues tous les... Et en fait, il dit qu'il creuse, tu vois. Et tous les ans, il creuse plus profond, il creuse de plus en plus profond dans les trucs, en fait, que t'as pas envie d'aller raconter, mais qu'en fait, tu te dis, oh, putain, en fait, ça c'est vrai. Et en fait, j'ai trouvé pour ton premier que t'avais déjà creusé.
pour un gars à poil, quoi.
Le mec avait quelques pelles. Hein.
Pour un gars de 21 ans, je me suis dit, ok, mec, t'es déjà profond. Alors, ça veut pas dire que tu vas pas réussir à creuser plus profond, en fait, mais que pour un premier, j'ai trouvé que t'avais déjà pas mal entamé
mais écoute,
le creusage.
Ça me touche. J'ai des trucs pour le second spectacle que je commence à mettre de côté et que j'ai commencé à pas à roder mais à tester. Je crois que ça tient la route, donc je suis content. Non, mais je pense surtout que le premier spectacle, je parle pas de ce que je suis maintenant, je parle de pourquoi je suis comme ça. Et je pense que si en deuxième spectacle, il faut que le premier fonctionne, donc il faut que vous alliez le voir. C'était mon propos. Mais si il y a un deuxième spectacle, je pense que c'était trop mignon. C'était tellement un petit peu genre, allez, s'il vous plaît, allez.
Soyez sympa. Donc, il y aura un deuxième.
Un soir, vous faites rien, allez. Et je pense que s'il y a un deuxième, je raconterai plus ce que je suis plutôt que pourquoi je suis ça. Ce qui est une légère nuance. Mais en final, on sort du spectacle et on se dit pas, je sais qui il est. On se dit, je comprends pourquoi il est ça.
Je sais d'où il vient.
Moi, c'est ça, je sais d'où il vient. C'est comme si j'avais bien expliqué le train que j'ai pris et le départus, mais j'explique quoi, le terminus. Et je pense que là, je vais raconter, je suis à Châtelet. Voici Châtelet. Donc, je pense que ce sera ça.
Qu'est-ce qui fait que tu décides de te mettre ? En fait, je pense que j'ai rarement vu un humoriste, surtout un mec, se mettre autant à poil avec simplicité et naturel sur scène.
Alors, il va falloir préciser que c'est une métaphore, car nous sommes en podcast et les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses.
Mais arrête, s'ils croient que t'es nu, peut-être ils vont venir.
Plus. Non, je pense pas. Au contraire,
ah,
j'ai pas un corps agréable nu. J'ai vraiment pas un corps... Nu, c'est vraiment, tu sais, on me voit nu, je crois qu'on dit non merci. Est-ce nu, que... c'est vraiment non, c'est vraiment.
Ok, on va alors changer de sujet pour partir sur le rapport
encore. Je suis déjà nu hein, devant des gens, et c'est vraiment un regard de bon. Bah écoute, aucune surprise. Tu sais, c'est ni déçu ni content. C'est vraiment bon. Ça n'apporte rien. C'est vraiment, ça n'apporte rien au débat. C'est...
Alors tu le sais pas, mais moi j'ai vu, je connais Mimi, tu vois, et je connais, ça fait longtemps.
Tu veux dire, j'ai vu Mimi à Walp. Et
d'accord, non,
ça se fait pas.
D'autres gens oui, mais Fab non.
Mais j'ai vu l'œil de Mimi s'allumer au moment où t'as fait ah moi mon corps et moi Mimi elle a fait oui allons-y alors tu le sais pas mais t'as enclenché le mode comment on appelle ça savage non je sais pas
le bref. Mode chasseur
ouais. Wow, okay,
en fait c'est à la fois un grand sujet et un non sujet le rapport des hommes à leur corps et le regard qu'ils peuvent avoir dessus et le corps masculin est pas forcément montré comme désirable et sensuel, etc., dans la société, par rapport au corps féminin qui est sexualisé un peu trop tout le temps. Mmh. Et du coup, dans ce podcast, j'aime bien parler du rapport au corps. Du coup, c'est quoi comment t'as construit ton rapport à ton corps, et notamment à la puberté, ton corps change, ce n'est pas sale, tout ça. Comment ça se passe quand ton corps devient un corps d'homme ?
Panayotis, enfin, pour l'audio guide, t'es perdu. J'ai vu ton regard.
Non, je sais que c'est dans le vide. J'essaie de faire un... Parce qu'en podcast, je dis toujours trop de la merde parce que j'ai pas la contrainte de la caméra, comme tu disais. Et du coup, je me disais déjà dans ma tête, ok, tu n'abordes pas ces sujets. Je jouais le rôle de mon attaché de presse, mais mon hémisphère gauche jouait l'attaché de presse. Et à droite, l'artiste qui veut trop dire de trucs.
N'hésite pas à trop dire de trucs.
Non,
au pire,
bah
on coupera.
Mais l'embête pas.
Non, qu'est-ce qui a changé quand j'étais plus jeune? Le rapport au corps. Bah en ce moment, je suis dans cette question-là où je me demande si j'ai envie de... Par exemple, je me force un peu à faire des pompes, à faire des trucs et à me dire... Il y a un truc, une petite voix qui trotte dans ma tête qui me dit « T'es un mec, t'es censé être un peu musclé. » Il y a un truc de... je crois que c'est plus joli un corps pas musclé, je le pense. Je trouve que c'est joli les corps musclés. Mais je me demande si c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc là, je suis dans ce moment-là où je me dis est-ce que ça me représente ? Ce serait pas une fausse enveloppe ? Comme une trop belle enveloppe pour une lettre un peu chum.
C'est beau.
Ouais. Tu sais, une lettre qui a bavé, genre l'encre, le mec il a retiré sa peau mais ça a bavé et tout. Et t'es en mode, oh, pourquoi il a mis une si belle lettre pour cette lettre de merde. Non, le changement au corps, la puberté c'était pas si longtemps que ça pour moi. La voix, ça a été un problème compliqué. J'ai eu très longtemps une voix aiguë. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire En finir avec Eddie Bellegueule d'Edouard Louis. Et c'est marrant parce qu'il parle à quel point sa voix, ça a été compliqué. Sa voix très haut perché, très aiguë, et puis que tout le monde lui disait que c'est une voix de femme, etc. Moi, j'ai eu beaucoup ce truc-là aussi. Et d'ailleurs, une voix que sur scène, j'ai très aiguë par moment, mais que j'assume complètement maintenant. Mais quand j'étais au collège, je me souviens que c'était un peu plus compliqué. Parce que tous mes potes avaient une voix d'un seul coup qui est devenue très grave, et moi, j'ai vraiment mis 2 ans après eux à avoir une voix grave. Et ça, je me souviens que c'était un peu compliqué. Je me souviens qu'on se foutait beaucoup de ma gueule pour ça, mais après, je faisais des meilleures blagues qu'eux, donc j'arrivais à les niquer. Donc ça va, tout va bien. Non, je suis longtemps resté un peu plus petit que les autres. Je pense que ça a mis un peu plus de temps à se lancer. La peau grasse a été un long souci pour moi. Là, je suis en train de vous parler de trucs qui répondent pas forcément à vos questions, mais je fais un bilan aussi par rapport à des choses que je suis en train d'essayer d'enfouir, mais que là, je ressors. Le sexe. Quand j'étais plus jeune, je me disais « Ah, je crois que tu vas avoir une petite bite ». Mais c'est pareil, c'est l'idée de ça a mis du temps à arriver. Quand c'est arrivé, j'étais en mode « Ah, content !» Genre « Ah, mieux. Bon, ça va !» Donc ça, tout allait bien. Mais il y avait vraiment un moment où j'étais stressé parce que genre je commençais mes premiers rapports sexuels et je me disais « Mais normalement, ça devrait... » Tu sais, c'est comme tes grains de riz quand ils mettent du temps à grossir et t'es en mode « Bah, je dois manger dans pas longtemps, là, quand même. » Donc il y a... Mais non, tout va bien.
Alors, je vais pas te demander le chiffre. Dis-moi. Est-ce que t'as déjà mesuré ta teub ? Et si oui, comment ? À l'aide de quel instrument ?
Ouais, oui, j'ai fait quand j'étais plus jeune. Et à qu'une règle. Mais je crois que tous les mecs qui te disent qu'ils l'ont pas fait, c'est
ouais, je pense
impossible.
C'est impossible.
Je crois que c'est vraiment un truc. Mais après, ça fait très longtemps. Mais je crois que c'est vraiment le moment où je me souviens. D'ailleurs, ça vient très vite, hein, la teub qui grossit. C'est très rapide chez un jeune homme. Personne nous prévient de ça quand on est petit, mais c'est vraiment en 2 semaines, quoi. C'est tu te lèves et un jeudi, t'es en mode
waouh! Qui a mis de l'engrais?
Et donc, t'as ces trucs-là. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, prends une règle, vois, qui est vraiment un truc de. Et non, et puis après, j'ai mis ça un peu de côté, quoi. Mais ouais.
Il y a plutôt des questions aussi autour de la mesure, de la façon de mesurer. Parce qu'il y a des mecs qui...
Il y a des teams, voilà, maître de couturière. Où est-ce que tu commences? Il y en a qui, genre, c'était qui? C'était Patrick Beau qui disait, t'as une astuce, ou si tu commences un peu sous les couilles, machin, ça te rajoute quelques centimètres. Rajouter...
Par contre, moi, j'ai jamais dit mon chiffre à quelqu'un.
Ah non, je vais pas te demander de dire le chiffre.
C'est juste de rajouter des
ouais,
trucs.
Ouais, mais il y a des chiffres officiels, tu sais, par exemple,
oui, la moyenne
française, machin, tu vois ça, donc si c'est compliqué pour toi et que tu fais, bon, bah, s'il y a moyen de gagner 3 cm, bon, bref. C'est des questions récurrentes du podcast, hein, tu vois, donc, voilà.
Non, mais comme tous les mecs, pendant mes premiers rapports, je me souviens que j'avais ce truc-là un petit peu de, avant de me mettre à Walp, j'allais dans la salle de bain et je tirais un peu sur ma tub. Et je me disais, ça va, juste pour l'image. Ce truc-là.
Putain, mais j'apprends des trucs dans ce podcast tous les jours.
Non, mais tu sais, t'as le côté un petit peu
petite
pichenette que tu te donnes pour t'éveiller un peu.
J'ai un pote qui faisait ça dans les douches de vestiaire, de basket, pour se faire grossir un peu la table. Mais il le faisait de façon très discrète, mais ça se voyait
bah,
trop.
C'est discret,
quoi,
puisque tu le sais.
Voilà.
Bah, il le faisait avec ma main, en fait. Donc il y avait... mais non, mais ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis non, mais ça, c'est des questionnements. Je pense que chez un homme, il y a une vraie question sur la tub. Pendant un moment, on est vraiment représenté. Il y a ce truc-là de petites bites, grosses bites. Et puis c'est vraiment une discussion... les meufs, les premières meufs qui ont vu ta tub, il y a des discussions, il y a des trucs. Tu sais, il y a vraiment un truc de... C'est un sujet qui est important, j'ai l'impression, pour les hommes, alors que c'est au tout début. Et donc, ouais, au bout d'un moment, ça te hante un petit peu, t'as ces questionnements-là. Mais après, voilà, donc c'est un truc qui part. Je crois qu'à partir de genre 16 ans, tu te poses plus trop, tu passes à autre chose, quoi.
Est-ce que t'as fait ce truc que beaucoup d'invités du podcast ont fait, qui est la branlette entre potes?
Non.
C'est peut-être ça qu'il était en train de dire, faut pas que t'en parles.
Ah non, bah, j'ai eu du retard pour le podcast, vous m'avez entendu. J'étais en retard, j'ai eu 15 minutes de retard pour le podcast. Bah, j'étais avec mes potes et non, c'est jamais arrivé. Ça a failli arriver, hein, je me souviens. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je lis, bah, du coup, je redis En finir avec Eddie Belgol, qui est un très bouquin. Un très beau bouquin. Un très bouquin, ça ne veut rien dire. C'est vraiment un bouquin. Tu sais, le mec, il dit aucun adjectif. C'est vraiment un livre, quoi. Et il raconte une sorte de branlette entre potes à un moment et c'est tellement touchant, c'est tellement beau. Mais ouais, non, à un moment, je me souviens qu'il y a un pote qui a essayé de lancer ce truc. Mais non, ça s'est jamais passé. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de mecs l'ont fait, quoi. C'est un truc qui est assez...
Nos invités, c'est plus ou moins 50%.
Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a un truc de génération où ça, tout se perd de nos jours. Et en fait, le fait d'avoir un accès personnel au porno et de pouvoir en regarder...
Ouais, je pense qu'à l'époque, quand il y en avait un qui avait un porno, c'était en mode, les gars, venez, j'ai un truc.
C'est croquer les potes, tu vois.
Ouais.
Ah, c'est vrai. Mais donc, on perd, encore une fois, on va vers une société individualiste où on peut plus se branler entre potes.
Les gens ne partagent plus les plaisirs simples de la vie. En vrai, je trouve ça assez sain.
Peut-être pour une bonne cause, hein, je sais pas.
Peut-être que c'est pas grave.
Non, mais il y a un aspect aussi de découverte, quoi, tu vois, de comment tu marches toi et comment tes potes marchent aussi, tu vois. Enfin, en tout cas. Voilà.
Mais il y a aussi un aspect de compétition un peu chelou.
Oui. Qui est le truc, c'est en général, c'est celui qui arrive à jouir en premier gagne.
Ah bon?
Voilà, bah c'est... Oui.
Bah écoutez, je suis très heureux d'être venu à ce podcast, parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses qui vont m'être utiles. Bah écoutez, je vais créer un groupe WhatsApp avec mes potes. Bah,
et pour tes séances d'écriture.
Ouais. Ouais, très bien, hein. Très bien.
J'aime bien parler un peu du porno quand j'ai des invités
avec plaisir.
Plutôt jeunes, parce qu'on fait partie de la première génération qui a eu un accès quasi illimité au porno au moment où on découvrait... En fait, on a pu voir du porno de façon quasi illimitée avant d'avoir une vie sexuelle.
Ouais.
Est-ce que toi, t'as regardé du porno avant d'avoir une vie sexuelle? Est-ce que ça t'a donné des idées sur la sexualité? Ou quand t'es arrivé dans le grand bain, t'étais là, pas du tout?
Ça m'a donné une idée très violente de la sexualité. C'est que mes premiers rapports sexuels, je sais pas si vous avez regardé la série Euphoria, qui a été produite par Drake. Il y a le personnage de McKay à un moment qui, par réflexe et par éducation, il étrangle la meuf pendant qu'ils ont un rapport, et je trouve ça assez marquant parce que je sais que j'ai tenté des moves comme ça au début je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Et donc je pense que ça m'a mal éduqué, de ce point de vue-là. Moi je me suis fait griller par ma mère en train de regarder du porno, quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait une fugue, elle m'a grillé et j'ai vraiment fait un truc ridicule. Donc déjà, c'était la première fois que je regardais du porno, donc je me suis fait griller à la première fois, ce qui est vraiment la loose ultime. Et c'était un pote à moi qui était un peu plus vieux, j'ai toujours traîné avec des gens un peu plus vieux que moi, qui m'avait dit, faut que tu regardes du porno, t'as jamais regardé et tout, donc on était allé chez moi. Et chez moi, il y avait un seul ordi, c'était dans la salle d'ordi, on appelait ça la salle d'ordi, ce qui est très bizarre. Et c'était une toute petite salle avec un ordi. Et c'était vraiment un cybercafé, c'est trop chelou. Et je me rends compte là. Et on arrive dans cette salle et le gars lance un porno et tout. Et il me dit, tu verras, c'est trop cool. Et puis juste on regarde un porno, il y a pas de branlette, c'est juste on regarde. Et il voulait me montrer l'activité porno, quoi. Et ma mère rentre.
T'as quel âge, tu disais?
Je crois que j'ai 11 ans.
Ok.
Je suis en 6e, donc à peu près 11 ans. Mm. Et là, je me souviens par réflexe, tu sais, c'était les ordi à tour et tout, donc je colle mon bus sur l'ordi. En mode.
C'est naturel.
Et ouais, très naturel.
C'est pas du tout louche.
Et en impro, j'ai des rapidités. Et je dis à ma mère, c'est ton cadeau de la fête des mères!
Génial.
Et ma mère, elle dit, oh! Et tu sais, elle fait une tête de, bon, je vais vous laisser tranquille. Et là, elle sort, et elle fige, et elle me dit, mais c'est passé la fête des mères? Et elle arrive et dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je retire, et genre, on voit un porno, quoi, mais hardcore en plus. Mm. Et là, je pars en courant, et je pars vraiment 3 heures, parce que il faisait froid et j'avais pas pris de veste. Et donc, c'est vraiment la fugue nulle de j'attendais dans un parc, et mon pote, il était avec moi par soutien, et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, bah, faut que je rentre, ma mère, on mange à 19h, donc j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave, je suis resté genre encore une demi-heure tout seul, je regardais les canards dans le lac, et je dis, bon, bah, je vais rentrer. Je suis rentré, ma mère, elle m'attendait dans la cuisine, assise. Elle m'a dit, assieds-toi et tout. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas ça la vie. Si tu crois que c'est ça la vie, tu vas être malheureux et tout. C'est pas ça. C'est d'abord aimer quelqu'un, faut trouver. Moi, je me souviens, pendant qu'elle me parlait, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je m'achète un iPod Touch pour regarder du porno discrètement. Donc, j'écoutais pas trop sa leçon de vie. Et donc, j'ai fait une économie de Noël. Et je me suis acheté, j'ai demandé. Hein?
C'est un running gag.
Cette anecdote est longue. Mais j'ai vraiment économisé un Noël, un anniversaire et un Noël pour avoir un iPod Touch.
Dans le but de regarder
c'était
des
la
porno,
première version d'iPod Touch et tout. Et donc j'ai un iPod Touch, je le connecte en Wi-Fi et tout. Et je regarde du porno, c'est le meilleur truc de ma vie. Je regarde du porno le soir, tranquille, c'est tellement bien et tout. Je prends mon temps, tu sais, j'ai plus le stress parce que je le fais tard. Genre je me réveille à 1h du match, c'est qu'il y a personne de réveillé et tout, c'est génial. J'ai mon petit moment à moi. Et à un moment, j'ai trop peur parce que je le fais la nuit et je suis dans la chambre à côté de ma sœur. Et je me dis, j'ai trop peur que ma sœur vienne dans ma chambre. Et du coup, je commence à flipper, je le fais, je me dis, bah, c'est, le mieux c'est de le faire dans les toilettes. Et du coup, je commence à prétexter des gros caca en plein milieu de journée pour aller me branler dans les toilettes.
T'as pas une serrure sur ta porte? Tout simplement?
Bah non.
Ok.
Qui, quel enfant a une serrure sur
non,
sa porte?
Non, y a pas
personne
de
fait ça, si?
Je pense.
J'avais
moi,
une
déjà, mes parents ne toquaient
clé.
Pas.
Ah.
Mes parents, c'est t'es notre enfant, je m'en bats les couilles, quoi. C'est. Employeur, employé, quoi. C'est. Frère, est-ce que t'as piqué dans la caisse? C'est. Je m'en fous, quoi. Et du coup, je suis dans les toilettes. Et je me souviens, c'est genre une semaine après que j'ai l'iPod Touch. Je regarde un super porno. Et je suis sur les toilettes. Et je me souviens, ça va, je vais rentrer dans des détails, mais c'est une des premières, un des premiers coïts très puissants que j'ai eu. Et je crois que j'avais pas d'éjaculation à l'époque. Là, je vois vraiment le regarde mon attaché de presse, regarde le regard dans le vide de pourquoi je le ramène à ce podcast. Et tu sais, parce que c'est marrant, mais mon travail, on essaie d'avoir une image un peu classe avec mon spectacle et tout, et moi, je suis là. Et donc, je me branlais dans les chiottes. Et tu sais, on essaie de faire des belles couves, Télérama et tout. Et moi, je me branlais comme ça sur un porno. Et non. Et super. On va retravailler tout ça, t'inquiète. Non, mais. Et je me souviens, et donc j'ai ce truc-là de ah, première fois que c'était un petit cri de ah, et je lâche mon iPod et il tombe dans les toilettes.
Putain, j'en peux plus de ta vie de galérien.
Ouais. Et j'ai hésité pendant un moment à raconter ça dans le spectacle, mais je me disais c'est pas très classe. Mais et l'iPod tombe dans les toilettes, et je sais pas si vous étiez au courant, mais les premières versions d'iPod ou d'iPhone, quand ça tombe dans l'eau, ça frise l'écran. Et donc ça frise l'écran sur une meuf qui suce un gars, mais genre un gros plan d'une go qui suce un gars. Et moi je fais oh non. Réflexe quoi. Et ma mère toque, ça va, tu vas bien? Et moi je fais oh. Et elle toque, ouvre-moi. Et je suis dans les toilettes, elle toque. Et moi je suis ah. Et elle dit, je vais rentrer. Et elle appelle mon père, viens, Panayotis. Et mon père il arrive, il dit, ça va, tu vas bien? Je vais rentrer. Et il veut défoncer la porte. Et genre rien ne va. Et moi je suis en mode non, non, mais je sais pas quoi dire et tout. Et je me souviens, je sors l'iPod. Et mon réflexe c'est de le casser contre le rebord d'un meuble.
Bah, la
et
base.
Je et donc je casse mon iPod. Et mes parents ils entrent et tout. Et mon père, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, j'ai cassé mon iPod. Et je pense qu'ils ont compris, parce que je devais encore bander. Je sais pas, mais il y a un truc vraiment de tristesse. Et j'ai toujours cet iPod. À chaque fois que je vais dormir chez mes parents, genre, une fois par mois, j'ouvre un vieux tiroir où j'ai caché mon iPod cassé. Et je me dis, mais c'est tellement marrant. J'aimerais tellement faire réparer l'écran et le rallumer pour voir. Je sais pas, mais. Et donc, cette tristesse-là du gamin qui casse un an et demi de crédit de Noël et d'anniversaire, c'est fou. Et donc voilà. Ça, c'est mon rapport au porno. Et voilà. Mais là, j'en regarde plus, je suis assez fier. Je regarde plus de porno, ouais.
Ça t'intéresse?
Je me suis forcé à, ça fait genre, je sais pas, 2-3 mois que je me force à ne plus en regarder. Parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait pas dans ma vie sexuelle.
Ouais.
À me libérer. Il y avait vraiment un truc de, j'avais besoin de certaines choses pour arriver à une certaine excitation. Ouais. Et je me suis rendu compte que si j'en regardais plus, il y avait plus ces attentes-là. Ouais. C'est comme quand tu regardes trop de films il y a un moment où t'as du mal à sentir certaines choses dans ta vie, des émotions ou autre, parce que t'as toujours l'impression que la vie, il faut que ce soit comme dans un film. Ou les gens qui lisent trop de bouquins, tu sais, ils ont toujours l'impression qu'il faut que les choses soient romancées. Mmh. Et bah là, j'avais un peu cette impression-là de ma sexualité était plus complexe quand je regardais du porno. Donc là, je suis content, j'ai arrêté d'en regarder. Et ça me fait du bien. Mais j'ai arrêté vraiment comme un gars qui arrête la clope. C'est-à-dire, j'en regardais, avant, j'en regardais genre un par jour. Puis après, je me suis dit un tous les deux jours. Puis après, je me disais, bon, tu regardes que 15 secondes. Puis après, c'était que les photos. Genre, je naviguais et je regardais que les photos. Puis après, je suis allé sur Tumblr et je regardais des gifs. Rien n'allait. J'ai vraiment fait toutes les étapes.
Ah ouais, donc c'était un vrai truc conscient.
Ouais, oui, je voulais vraiment arrêter.
Ok. Le sevrage, petit à petit.
Non, mais c'est cool. Je pense qu'il y a de plus en plus de mecs qui réfléchissent à cette possibilité et à l'impact que le porno peut avoir sur leur sexualité. Mais on n'a pas encore abordé, je pense, le sujet dans le Boys Club de arrêter le porno pour retrouver une sexualité plus, un peu plus naturelle.
Et
est-ce
bah,
que t'as
fonctionne.
Vu des, ouais, t'as vu des effets?
Ouais, ouais, ça fonctionne. C'est, ouais, beaucoup plus simple. Trop tout bien. Est Bravo. Plus simple. Bravo, elle m'a dit.
Bravo, bravo pour ce que
c'est trop mignon. Bravo de
bravo
baiser,
pour ta
de baiser simplement. Bravo d'être sobre. Dans
non, mais en fait, c'est comme une addiction, je pense.
Ouais, bien sûr. Ah, mais bien sûr.
Donc, bravo, bravo d'avoir réussi à te libérer de cette addiction.
En fait,
quoi.
Quand je me souviens que... Bah tiens, ça, c'est un truc. J'ai hésité à le faire sur scène pendant un moment, mais peut-être que je le ferai. Mais tu sais, quand j'ai beaucoup de mecs qui comprennent pas la notion de consentement, qui disent, mais je comprends pas... comment une meuf elle peut avoir envie, après plus envie, puis ça part vite, puis ça revient et tout. Parce que nous, on a un peu ce truc-là de chaudière, quoi. Une fois que ça chauffe, tu sais, de... Et alors que c'est pas du tout le même rapport. Et je pense que je me suis posé la question de, par rapport au consentement, de comment je pourrais essayer de comprendre le consentement et de l'expliquer de manière simple. Et je me suis rappelé de quand j'étais gamin et que du coup, je découvrais le porno, je sais pas, j'avais 15-16 ans. Et cette fois-ci, donc, je commençais à gagner un peu de sous avec mon petit métier de faire des trucs avec YouTube, ça m'a rapporté un peu de sous. Et je me souviens, je m'étais acheté un iPad mini. Donc là, c'était du porno avec un grand écran, c'était génial. Et je me suis rappelé d'un moment où, dès que mes parents partaient, il fallait que je regarde un porno. Parce que, je sais pas, c'était la seule chance où ils partaient, je pouvais regarder un porno. Et je me souviens de nombreuses fois où mes parents partaient et j'avais pas envie de me branler. Mais je me disais, puisqu'ils sont partis, il faut que je le fasse. Mmh. Et je me souviens que je me forçais moi-même à me branler. Et je faisais vraiment, allez, vas-y. Moi, je dis, oh non. Et tu sais, il y avait vraiment les deux voix. Et je me suis dit, mais en fait, tu l'as ton rapport au consentement. Tu vois, ce moment où tu te dis qu'il faut le faire parce que t'as pas envie de te mettre mal à l'aise. Tu vois, et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de meufs qui sont dans cette situation-là de, je dis un peu oui parce que je comprends que c'est ce que le mec veut, mais en fait, il n'en est pas vraiment envie. Et je me suis dit, mais c'est la meilleure manière de l'expliquer. C'est ce moment-là où, quand j'étais gamin, je me disais, il faut que je le fasse parce que c'est dans ma règle. Je me suis fixé une règle de, mes parents sont parlés, il faut que je baise. Comme cette règle-là débile de, si la meuf, elle accepte de venir boire un verre chez moi, alors que c'est débile, bah, je vais la ken, alors que ça c'est pas possible, en fait. Ça n'existe pas. Il y a tellement de combinaisons possibles. Et je me suis dit, ce serait une bonne manière, peut-être sur scène, d'en parler. De raconter ce moment-là où, quand t'étais gamin, tu dis, il y avait pas tes parents, tu dis, faut que je me branle, alors que t'en avais peut-être pas forcément envie. Et d'abord écouter ses envies plutôt que d'écouter la règle de, bah, parce qu'il y a pas mes parents, faut que je me branle. Donc voilà.
Est-ce que t'as cette sensation de, comment dire, de délivrer un message quand tu, non, mais c'est vrai, est-ce que t'as écrit ton, par exemple, typiquement?
Pas du tout.
Ah, ok, ok. Non, mais c'est pas, attends, c'est pas un jugement, mais c'est juste.
Ah, non, pas du tout.
C'est juste, de cette envie, par exemple, de parler de consentement, qui est un sujet qui est pas trop abordé dans le stand-up d'une manière générale, hein, et surtout par les mecs, encore moins, je pense. T'as une conscience, toi, à un moment donné, quand t'écris, de te dire, ok, parler de ça, ça va peut-être aider à faire progresser les trucs, et notamment dans ton rapport à ton daron, etc. Enfin, je pense que si t'es un mec qui a un problème, qui a des problèmes avec ton daron, tu sors de là, normalement, ça doit t'avoir à minima retourné la gueule, poser des questions.
Bah j'ai pas forcément l'envie de passer un message. C'est pour ça que d'ailleurs il y a très peu de moments un peu comment dire, très solennels dans le spectacle. Souvent les idées un peu il y a des idées dans le spectacle, mais je les fais passer vraiment de manière teubée ou autre. Je me suis posé la question à un moment si j'avais pas envie de faire passer un message, et je crois que la meilleure manière de faire passer un message, c'est de pas faire passer un message. Je sais que moi, quand à chaque fois ça m'énerve dès que quelqu'un me dit écoute, il faut que tu fasses ça, ou le mieux c'est de faire ça, ça m'énerve, j'ai pas envie d'écouter cette personne. Et je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était créer un écho. C'est juste crier un truc dans la montagne et que ça fasse un écho et que peut-être ça retombe dans la tête de quelqu'un. Et je suis trop content, des fois je reçois des lettres, même des lettres postales que des gens envoient au point virgule, de genre... La fois, je sais pas, c'était un mec de 25 ans qui me disait, ça fait 10 ans, je parle plus à mon père. Et quand j'ai vu ton spectacle et tout, on s'est appelé, on s'est vu, c'est tellement, ça me rend heureux. Et je trouve ça beaucoup plus naturel et organique. Et en plus, j'ai 21 piges, quoi. Faut pas que je passe pas des messages, j'ai 21 piges, c'est bizarre, tu vois. je vous explique la vie alors que je l'ai tellement pas comprise en plus. Mais du coup non, je pense que c'est plus une idée de j'ai envie de parler de trucs dont j'ai envie de parler, qui moi ça m'aide d'en parler. C'est vraiment égoïste, hein, c'est vraiment j'en parle parce que ça m'aide d'en parler. Et le fait d'en parler, ça va peut-être retomber des petites miettes dans vos têtes et après en tout cas l'idée de faire passer un message, ça m'angoisse plus qu'autre chose. D'avoir une tribune.
Non mais c'est pas un truc conscient en tout cas.
Non.
Tu as décidé consciemment d'arrêter le porno.
Ouais.
Il a dit quoi ton daron quand il a vu ton spectacle?
Mes parents, ouais, ils sont venus au spectacle. Ils sont pas venus dans une salle un peu grande, comme le théâtre de l'Atelier le 20 et 21 novembre. Mais le mec qui est fort en promo.
Yes.
Ils sont venus au Point Virgule, qui est donc une petite salle, c'est 120-130 places quasiment. Et donc je les voyais dans le fond de la salle quasiment. Et d'ailleurs depuis j'ai changé, j'ai demandé à ce qu'on me mette un plein phare en pleine gueule pour que je vois pas les gens parce que ça me stresse. Mais je voyais mes parents à l'époque. Ils sont venus en mai, je crois. Et donc ma mère, elle était morte de rire pendant tout le spectacle et répétait toutes mes fins de phrases. Genre,
c'est tout, c'est comme une maman, daronne.
Ouais, c'est ça. Tu sais, genre moi je disais, il est posé sur le tabouret, elle est sur le tabouret, tu sais, dans le fond de la salle comme ça. Et mon père, lui, il rigolait pas, il était très, il écoutait quoi. J'ai jamais vu mon père rire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je l'ai vu se taper un fou rire et on a eu peur. On était avec tous mes frères et tout et on a vraiment eu peur. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, je lui ai dit tu caches très mal ta dépression. Mais il s'est tapé un fou rire et je l'ai filmé, je l'ai dans mon iPhone, le fou rire de mon père. Et c'est la première fois que je voyais mon père rigoler de ma vie, mais genre c'est vraiment rire, pas genre c'est vraiment genre il a eu un fou rire. Bref. Et donc il a pas rigolé. Et à la fin du spectacle, ma mère va aux toilettes, je l'ai rejoint là dans le fond de la salle et tout, ma mère va aux toilettes et mon père on se parle pas trop et puis on se serre la main. C'était à l'époque on se serrait la main et là il me fait une bise, fait une bise un peu bizarre, il me fait une bise sortie de nulle part comme ça et dans l'oreille il me dit c'était bien. Et là t'as la meuf qui gère les billets à l'accueil et tout qui vient, qui savait que mes parents étaient là et puis elle dit oh, c'est votre fille c'est tout. Et mon père il dit ouais. Et il dit vous c'était la première fois que vous voyez sur scène? Et il dit ouais. Et il dit vous avez été impressionné? Il a dit non. Et elle a fait très bien, bah écoutez je vais vous laisser régler des choses. Mais ouais. Puis non, et puis après on s'en est parlé et puis je pense que ça nous a aidé à faire le trajet l'un vers l'autre. Parce qu'il a compris qu'il y avait des choses que je comprenais pas et il a compris que j'avais besoin de comprendre certaines choses. Et du coup, quand on s'est vu et qu'on a fait des repas, on en a fait deux. Mais là, on va continuer. On s'est un peu fixé la règle d'essayer d'en faire un au moins tous les deux mois pour comprendre des choses. Et donc voilà.
Waouh. Faites une thérapie de.
Ouais, ouais complètement.
Père-fils, quoi.
Complètement.
Tout seul. À deux.
Ouais.
Et ça te fait quoi quand ton daron, il te dit non, en fait, j'ai pas été impressionné?
Donc je commence à le connaître, ouais, ouais, ça. Donc ça me fait pas grand chose, mais ouais, bah, je raconte dans le spectacle la première fois que je suis rentré de la télé. Tu sais, je suis arrivé à la télé tout seul, en bossant, avec un casting et tout. Je suis arrivé à 17 piges dans l'émission la plus culte de ma génération, Le Petit Journal. Clair. Et j'arrive et il me dit où je vais regarder l'émission, tu regardes trop dans le vide, t'as l'air d'un imbécile, c'est dommage. Tu sais, mais mon père il a ce truc un peu dur, mais c'est parce qu'il pense qu'il sait juste pas dire les choses et du coup il pointe un peu que le négatif, ce qui est très bien parce que ça nous a poussé à toujours faire mieux, mais ce qui est aussi à la fois un peu dur parce qu'on a du mal à être content de ce qu'on fait, peu importe, tu vois. Moi j'ai un frère qui est entrepreneur, il gère une entreprise qui a un gros chiffre d'affaires, j'ai un frère qui monte des pièces un peu partout, ma sœur là qui a fondé sa famille et puis qui est assistante pour les gamins en difficulté, j'ai mon frère qui est avocat. On a tous dans nos domaines essayé de faire d'accomplir des trucs et tout, mais on a tous, tu sais, ce truc en commun de on n'est jamais content de là où on est. Donc à la fois c'est bien et difficile.
Lui-même a sans doute été éduqué comme ça, je pense.
Bien, lui, oui. Surtout, il a très peu été éduqué. Il est parti de chez lui à 14 piges, quoi. Donc, à 14 piges, tu te retrouves dans la rue, c'est un peu dur, quoi. Donc voilà.
Ceci explique peut-être cela.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de comprendre avant de. C'est là où je me suis rendu compte, c'était facile pour moi de le montrer du doigt. Et c'est pas ce que je fais dans le spectacle, d'ailleurs, je le montre pas du tout du doigt, au contraire. Mais pendant un moment, je lui en voulais. Très longtemps, je lui en ai voulu et.
Non, c'est très aimant. On sent que t'as beaucoup d'amour pour ton père et beaucoup de respect.
Sûr,
et même si tu le caricatures et que en fait il en devient un objet de blague, en fait, moi mon titre personnel tué sur place. Voilà,
j'ai trop bien.
Cet homme est décédé pendant ton spectacle trois fois. Je pense.
Je t'ai vu.
Ce moment où en fait tu sais t'as mal aux zygomatiques là, tu sais, où t'en peux plus. J'ai vécu ça.
Ça me fait plaisir de t'avoir fait mal.
Voilà.
Cette phrase est complexe, mais elle fait du bien.
C'est quoi ton histoire de daron qui cache mal sa dépression?
C'est-à-dire? Non,
t'as dit quand
tout,
ton père a eu un fou rire,
c'était
très
bizarre
d'avoir
tapé un fou rire. Ouais, c'est un peu, tu sais, la scène de film du mec, du Joker, quoi, qui se tape des fou rires quand il est mal, quoi. C'est un peu ce truc-là de. C'était très angoissant pour nous, je me souviens qu'on a vraiment été angoissés. Et non, c'était une vanne. C'était une vanne.
Ok.
Tout va bien. Je sens que t'as voulu creuser quelque chose, mais.
Oui.
Mais il n'y avait pas de pelle.
Non.
Tu parles dans ton spectacle, et donc c'est un des moments qui a fait crever de rire Fab, de ton père a essayé de vous éduquer à ne pas pleurer. Mm-hmm. Est-ce que maintenant t'arrives à pleurer?
Ouais, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup et c'est mon coloc de 40 ans qui m'a aidé à ça. On se faisait des vraies soirées où on chialait ensemble. Et non, ouais, maintenant je pleure beaucoup, beaucoup. Dès que je veux pleurer, je laisse ça sortir. J'ai encore ce truc-là de quand je suis en public, je le fais pas. Mais dès que je suis chez moi, ça part, c'est assez facile. Et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de pleurer. Mm. C'est, ouais. Quand j'étais petit, je pleurais un peu comme, tu sais, genre un patron d'entreprise qui voit son action perdre d'un seul coup des coups à la bourse, tu vois, ce truc-là où genre je pleurais face à mon miroir, genre une seule larme, elle coulait, je la séchais avec ma main et je faisais bon, on repart au boulot. <T'sais>, quand je, gamin, quand je pleurais, c'était vraiment ça. Et maintenant, j'arrive à faire des gros, c'est des vrais trucs de. Donc ça va, je suis plus heureux comme ça.
Ok. Et donc, mais tu dis que t'as encore du mal à pleurer en public, quoi. En tout cas, tu te caches, c'est ça?
Ouais, oui, bien sûr, parce qu'il y a ce truc-là un petit peu de. T'es pas censé chialer, quoi. Mm. Ce qui est un truc qui, d'un autre côté, fait peut-être pas de mal, je sais pas, mais je retiens beaucoup de trucs des fois. Mais en fait, moi, je pleure pour. Je me connais pas encore, hein. Je suis vraiment. C'est vraiment, je viens d'acheter la bagnole et je sais pas. c'est une fois sur deux, j'appuie là et au lieu de lancer le warning, ça lance les essuie-glaces. C'est vraiment, je sais pas trop. Mais
t'as 21 ans, t'es encore jeune.
Bah, bien sûr, mais du coup, des fois, je sais que. Je sais pas comment je vais prendre les choses. Par exemple, on peut m'annoncer un décès de quelqu'un que j'adorais et tout va bien. Et des fois, je suis dans le métro et je vois un vieux monsieur manger un sandwich tout seul et je chiale. Tu vois, c'est vraiment des trucs où je ne sais pas encore gérer certains trucs. Donc,
tu vois une psy ? Ou un psy ?
J'en ai vu et plus maintenant. Okay. Plus maintenant parce que je pense que ça m'aide à écrire des trucs marrants, de pas tout comprendre.
Donc oui, c'est ce fameux truc de si je suis plus triste.
Non, ah non, si c'est pas une question triste.
Non, mais tu sais, c'est un truc chez
non,
les humoristes.
Non, parce que je le suis. Non, mais c'est une question de le fait de devoir me poser des questions sur des choses que je comprends pas et de ne pas avoir les réponses, ça me pousse à creuser. Alors que si quelqu'un me montrait, bah c'est ça, j'aurais pas besoin d'aller creuser pour le comprendre. Tu vois ce que je veux dire?
Ok.
Et du coup, je pense que.
Un bon psy te montre pas, hein, en général.
Oui, non, il t'aide à y aller. Voilà. Bien sûr. Mais c'est juste que.
Mais il te fait gagner du temps, par
rapport. Ouais, il te fait gagner du temps et je pense que tous les cheminements sont importants.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, pour l'instant, en tout cas, je me dis, pour faire un bon spectacle,
ce sera pour ton spectacle des 40 ans.
Ouais, peut-être. Je ne vais pas avoir de psy pour le moment.
C'est intéressant.
Quand j'arrêterai la scène, j'irai voir un psy.
Ouais.
Je vais me moucher, je reviens.
J'essaie de garder une heure, tu vois. Parce que Mimi, elle adore les podcasts qui durent deux heures. On pourrait parler deux heures avec Mimi, ça la dérangerait pas. Moi, j'essaie de cadrer.
Et quel est ton prénom, Mimi ?
Myriam.
D'accord. Parce que je dis Mimi, mais Mimi Mathy, son vrai prénom, c'est Mimi ou pas ? Non, hein ?
Putain, je sais pas c'est peut-être. Quoi le nom de Mimi Mathy. Mais elle, c'est avec des I.
C'est
et
avec
moi,
des
c'est
I,
des
toi,
Y.
Avec des Y.
Peut-être qu'elle s'appelle genre Emily, tu vois.
Emily ? Non. Elle a pas une tête d'Emily.
Attends, bouge pas. Tu viens de.
Ok, c'est... Google. Quel est le vrai prénom de Mimi Mathy ?
Tu viens d'appuyer sur un.
Peut-être qu'elle s'appelle Josiane, tu sais, genre aucun lien.
Peut-être qu'elle s'appelle Joséphine.
Waouh. J'aimerais trop qu'elle s'appelle genre Jules. Je sais pas pourquoi. Ça me rendrait heureux. Je sais pas pourquoi.
Michel.
Voilà. Ça se tient. Bah oui, Mimi.
Ça marche. J'y attendais tellement pas. Ah, Michel Mathy. C'est trop bizarre. Ah.
On l'a
mais,
pas.
Hein. Ok, hein. Mais ah, c'est pas trop bizarre. Michel.
Ouais. On la connaît trop comme Mimi, tu vois, ça
ouais,
marche plus, quoi.
Ouais, c'est trop bizarre.
Merci comme... d'avoir
c'est
rappelé
mignon.
Que je partage
non,
mon
Mimi, c'est
avec
mignon. Michel, il y a un côté trop... genre, elle fume des clopes. Ouais, c'est Michel, putain. Tu sais, genre, elle a compris tout à la vie. Alors que Mimi, c'est trop mignon. C'est genre, ouais. Bonjour, je suis Mimi. Ah, très bien. Bon, bah écoute, pourquoi pas.
C'est comme ça qu'il faut... Tu devrais te faire appeler papa.
Non.
Non.
Impossible.
Impossible.
C'est Pana, c'est mignon.
Pana, c'est mignon.
Panayotis, c'est complexe.
C'est long.
Ouais. On sent qu'il n'y a plus beaucoup de sujets hein, dans ce podcast.
Je pense qu'on a fait
quand même,
un bon tour.
On a quand même recherché le nom de Mimi Mathy, mais c'est ça quand même.
C'était une parenthèse.
Random. C'est vraiment...
Parenthèse curiosité, est-ce qui va très vite.
Tout va bien.
Est-ce qu'il y a des trucs dont tu voulais causer, dont on n'a pas parlé ? Est-ce que tu t'es dit trop d'être au Boys Club pour parler de ceci et cela ?
Non. Non, non. Okay.
On a une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités. Et que normalement, qui t'a été transmis à l'avance, donc j'espère que t'as pris le temps d'y réfléchir.
Ouais.
Parce que c'est pas forcément facile à chaud.
Mais vas-y.
Je pense pas qu'on va être déçu. Okay. Est-ce que t'as une idée de mec qui pour toi représente une masculinité positive ?
Bah du trou, non. Je trouve que. Bah en fait ma réponse c'est mon frère. Donc c'est pour ça que c'est chiant parce que j'ai bien décrit mon frère tout à l'heure, mais je trouve que mon frère il a vraiment, en tout cas quand je le vois, il a
Il a quel âge ton frère?
Il est tellement à l'aise avec. Il a 27 ans, 28. Okay.
Ouais, donc c'est il un grand tellement... frère dans le sens où quand t'avais quand il avait genre 12 piges, toi t'avais 6-7 quoi, c'est ça?
Ouais.
Ouais. C'était un grand quoi déjà.
Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Et il a vraiment ce truc là. Déjà c'est un des mecs les plus à l'aise avec son corps. Je trouve ça magnifique. Mais après c'est un comédien de théâtre donc il a un truc très il joue à poil des fois. Il y a un truc très il est tellement à l'aise et ça rien que ça m'impressionne. Ensuite il a ce que j'adore chez le plus chez quelqu'un, c'est le charisme discret. Tu sais les gens qui genre on lâche trois mots et ils sont, tu sais, qui ont pas besoin d'être volubiles. Moi, je sais que mon souci, c'est j'ai besoin de toujours parler pour lui. C'est juste, il est très calme, très serein, très posé, et il est très à l'aise avec toutes ces questions et de sexualité et de masculinité, de trucs. C'est vraiment pour moi la définition d'un artiste. C'est il est à l'aise avec ses sentiments. Quand il a envie de dire quelque chose, il le dit. Il est très calme, très serein. Je pense que ce sera un très bon papa, et je crois qu'il représente vraiment pour moi ce que j'aimerais être en tant qu'homme. Quoi, c'est vraiment être à la fois droit dans ses bottes, mais ne pas avoir peur de salir ses bottes. Cette métaphore n'a pas beaucoup de sens, mais je trouve qu'il faut la laisser telle quelle.
On l'a.
On la garde. Okay. Elle est validée.
Parfait.
C'est cool.
On n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de leur frère.
Non, mais en fait, c'est rare qu'ils parlent de quelqu'un qu'ils connaissent. Il y en a beaucoup qui situent des personnalités et tout. Il y en a un, une fois, qui a dit moi-même, ce que j'ai trouvé assez cool. Il y en a un qui a dit mon daron. Mais
c'est qui
toujours...
a dit moi-même?
C'était Lepérave, je crois. C'était Léopold Lepérave qui a dit moi-même. Mais je trouve ça toujours cool quand c'est quelqu'un que l'invité connaît dans la vraie vie, parce que je me dis c'est cool, il a un entourage qui est chouette avec des modèles de masculinité positive, parce que Barack Obama c'est cool mais tu peux pas vraiment aller dîner avec quoi.
Ouais. Alors que tu le connais pas dans la vie hein.
Ouais, il a peut-être des lourds.
Mais il y a ce truc là un petit peu de mon frère, c'est qu'à chaque fois que je le présente à des gens, mais j'ai deux frères que je présente à beaucoup de monde. J'ai un de mes frères d'ailleurs qui travaille avec Farid. Là, Farid va ouvrir son comedy club et il l'a monté avec mon frère et tout. Et donc je me souviens quand j'ai fait les présentations, Farid après il m'a appelé, il m'a dit oh, il est tellement bien ton frère et tout, et il était, tu sais, pas genre amoureux, mais il y a un truc de, tu sais que mais ces deux frères là c'est les deux seuls frères que je présente aux gens, parce que les autres sont pas forcément à Paris et tout, mais à chaque fois les gens ils sont en mode oh ils sont fous, ils sont charismatiques, et il y a un truc de, ils sont, tu sais, ils sont juste tellement à l'aise avec eux-mêmes que t'as envie d'être avec eux. Je sais pas comment dire, ils sont tellement sereins que t'es serein quand t'es avec eux, et c'est tellement, à chaque fois que je suis avec eux même ça me fait du bien, ça m'impressionne. Donc voilà.
Trop bien.
Trop cool. Est-ce que tu peux rappeler aux gens où est-ce qu'on peut aller te voir sur scène dans cet excellent spectacle qui fait mal aux zygomatiques?
Oh, c'est une belle pub. Non, je joue au Point Virgule jusqu'à fin décembre. Donc c'est une salle dans le 4e, qui est une petite salle très culte, mais qui a vu naître Elie Kakou, Florence Foresti, Alex Huth, Farid. Donc c'est sympa. Et donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h15. Et après, je fais deux dates exceptionnelles qui vont faire un truc assez fou dans une salle de 600 places, qui est une très belle salle qui s'appelle le Théâtre de l'Atelier, qui est une de mes salles préférées à Paris, qui est pas très loin de Pigalle. Et on fait ça le 20 et 21 novembre. Et après, à partir de janvier, on passe au Grand Point Virgule, qui est une salle un peu plus grande, et pareil, 4 fois semaine. Et c'est à Montparnasse. Et en 2022, je serai dans... voilà.
T'as prévu une tournée ou pas pour les gens qui sont pas à Paris pour l'instant?
Ouais, y aura une tournée fin 2020, début 2021.
Ok.
Donc c'est dans
on va inviter les gens à te suivre sur tes réseaux,
avec
etc.
plaisir,
etc. Comme avec si ça plaisir. Ils seront, quoi.
Avec
tout à fait. Je pense que j'emmènerai mes parents voir ton spectacle, comme ça après je pourrai parler avec mon daron.
Ah, cool. Là, ça me fait plaisir. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent avec leur père.
Mais bien sûr.
Moi, ça m'étonne pas. Il y a un des gars qui fait mes premières parties. Il m'a demandé plein d'invites pour plein de darons dans sa famille, genre des darons, de ses oncles et tout. Je trouve ça trop cool.
Vous êtes sorti des darons.
Et des fois, il invite aussi des jeunes et tout. Je me dis, en fait, c'est trop cool à quel point ça me fait trop. Y a rien qui me touche plus que de voir que des fois, il y a des couples de genre 60 ans qui viennent et se tapotent en des bars que des jeunes de 20 ans. Ouais. C'est le truc qui me rend le plus heureux, je crois, avec le spectacle.
Mais tu parles de famille, c'est universel, tu vois. Tu parles de rapport aux darons, c'est universel. Et puis surtout, c'est des sujets qui sont pas beaucoup explorés, je pense, pour l'instant.
Il y a encore un peu de taf à faire sur la communication daron-fils en général.
Voilà, c'est pas vu et revu et réentendu, quoi.
On va voir où ça va. On va voir.
Merci Panayotis,
merci
d'être venu.
Merci de m'avoir invité.
Bravo pour ce que tu fais, c'est trop cool.
Et ça me fait plaisir. Passez une bonne soirée.
Toi aussi.
À toutes.
Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle, tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Tu peux faire la pub du podcast, ce serait très sympa, en mettant notamment 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club, à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sors le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sors le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle. Et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.